Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Un patrimoine radiophonique.
Qu'écrire après un premier succès au théâtre ? Une nouvelle pièce de théâtre. Une pièce qui fera pleurer ? C'est pas difficile à jouer tes pièces, dit la comédienne à Alexandre Dumas, mais ça broie le cœur. Et le public de la première de perdre la tête. Le succès, encore le succès. Voici l'histoire de la rédaction, puis celle de la distribution, et enfin celle de la première représentation au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, d'une pièce signée Alexandre Dumas, Anthony. Le conférencier aime son auteur et son sujet. Il est chaleureux et plein d'humour, comme toujours. Les grandes conférences, conférences données dans le cadre de l'Université des Annales par André Mauroy, Anthony. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 3 octobre 1955.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 1829, Dumas a 27 ans, c'est un colosse d'une beauté exotique et virile. Auteur d'un drame à succès, créateur d'un genre, le voici reçu avec amitié dans le monde des lettres. Sans doute, on imagine que Victor Hugo, alors jeune lévite, et prêtre de la famille devait trouver ce géant provincial et bruyant, un peu exotique. Mais Dumas apparaissait si naïvement content de soi, si évidemment bon, qu'on lui pardonnait tout. Charles Nodier, son premier patron, lui avait ouvert les portes de l'Arsenal, qui était le lieu de rencontre favori de la nouvelle génération. Là, le maître de la maison, causeur charmant, régnait sur la bibliothèque, dont il était le conservateur. Nous avons parlé, en étudiant Victor Hugo, de ces soirées où Nodier, adossé à la cheminée, racontait pendant des heures, avec un art infini, des histoires, en attendant que sa jolie fille, Marie Nodier, se mit au piano et fit danser les poètes et les romanciers. Du jour où Dumas fut entré à l'Arsenal, Nodier put parfois se reposer, car le jeune Alexandre avait un talent de conteur égal au sien. Qu'il parla de son enfance, du général son père, de Napoléon Ier, ou de ses démêlés avec Mademoiselle Mars, tout ce que disait Dumas était amusant et vivant. Et Dumas lui-même prenait à s'entendre un plaisir parfait. Un jour qu'il avait dîné dans le monde et qu'on lui demandait « Eh bien Dumas, comment s'est passé ce dîner ?»« Oh ma foi, dit-il, si je n'avais pas été là, je me serais bien ennuyé. » Ce jeune autodidacte, dont l'ignorance sur mille sujets tenait du prodige, avait de la vénération pour Nodier qui savait tout et encore beaucoup de choses au-delà de tout. Nodier fit tout ce qu'il put pour épurer son goût, pour le guérir d'une certaine vulgarité, il essaya même de le corriger de sa vantardise, mais sans succès. Depuis qu'il gagnait de l'argent avec Henri III, Dumas se couvrait de bijoux, de breloques, de bagues, de chaînes et portait des gilets multicolores. « Ah, lui disait Nodier, vous serez toujours les mêmes, vous autres nègres. Vous aimez les verroteries et les hochets. » Le jeune homme tolérait très bien qu'on lui rappelât ses origines, et même il en était très fier, pourvu que ça fût dû avec amitié, comme par Nodier. Mais d'autres le blessaient, et leurs injustes préjugés lui auraient donné un certain pessimisme baronien s'il n'avait eu tant de vigueur généreuse. Toutefois, il devint par là prédisposé à comprendre la révolte contre la société des bâtards, des proscrits, des enfants trouvés. Quelle que soit la raison qui rend un homme différent des normes sociales, couleur, race, naissance, bâtardise, infirmité, il se sent aussitôt le frère des réprouvés. Byron demeurait, vers 1829, le modèle de toute cette jeunesse révoltée. On copiait ses fureurs et, quand on le pouvait, son courage et son génie. Hugo, Vigny et Lamartine, hommes mariés, étaient eux très loin de la liberté sensuelle de Byron. Dumas, homme à tempérament ardent, s'en fut volontiers prévalu. Il n'avait pas été fidèle à la douce lingère Catherine Labbé, mère de son fils naturel. Jamais il n'avait cessé de les faire vivre, lui et l'enfant. Souvent même, il revenait passer une nuit avec elle, mais la fidélité n'était pas son fort. Il ne résistait jamais à une tentation et le théâtre lui en avait offert. Pourtant, il avait cru découvrir une véritable âme sœur en Mélanie Valdor, une jeune femme comme il faut, un peu bas-bleue, qui écrivait des poèmes et espérait les voir publiés. Originaire de Nantes, Mélanie avait 6 ans de plus que Dumas et elle était mariée depuis 7 ans à un officier quadragénaire qui, né à Namur, s'était fait naturaliser français. Mélanie lutta du 3 juin, jour où elle avait connu Dumas, au 12 septembre 1827. Puis elle finit par céder devant une telle force de la nature, il n'y avait pas autre chose à faire, et avoir soutenu un siège de 3 mois et demi était déjà très honorable. Il loua pour abriter leur bonheur une petite chambre, se mettant ainsi sur les bras 3 loyers, celui de Catherine Labbé, celui de la générale Dumas, et maintenant cette garçonnière. Mélanie accepta d'y venir et devint enfin la maîtresse d'Alexandre. 1830, année cruciale du romantisme. À la révolution dans les lettres va répondre la révolution dans les rues, époque ardente où la bataille est partout, dans les salles de théâtre, sur les barricades, et même dans les couples, car un romantique doit avoir de grandes passions. C'est le temps où Sainte-Beuve fait sa cour à Madame Victor Hugo, où la future George Sand s'affranchit du baron du Devant, où Alfred de Vigny s'attache désespérément à Marie d'Orval, où Balzac est prêt à s'enflammer pour quelqu'un saisissable, marquise de Castres. Le joyeux Dumas, lui, n'était vraiment pas par nature un tourmenté, mais il fallait bien suivre la mode, et il se mit, pour faire comme tout le monde, à être jaloux. Et de qui? Eh bien, du capitaine Valdor, mari pacifique de sa maîtresse. Quand un jour, Mélanie, après de longues vacances conjugales, reçut de l'officier une lettre où celui-ci annonçait son arrivée en permission à Paris, Dumas bondit au ministère de la guerre pour faire annuler le congé par un officier de ses amis. « J'ai failli en devenir fou, » dit-il. C'était fort exagéré. D'ailleurs, le mari ne vint pas, et cette comédie recommença plusieurs fois. Notez que Dumas, lui, saisissait toutes les occasions de tromper sa languissante Mélanie. Il avait eu Virginie Bourbier du Théâtre Français, puis Marie d'Orval, toujours passionnée, toujours follement amoureuse, puis une certaine belle Crêpe sa mère, ou Crêle sa mère, aux cheveux noirs, aux yeux azurés, au nez droit et aux dents de perles, qui jouait sous le nom de Madame Serre, et que Firmin lui avait présenté parce qu'elle était candidate à l'un des rôles d'Henri III, et à laquelle l'auteur avait distribué un rôle plus intime. Mais il tenait absolument à faire sa crise de romantisme. Il parle maintenant à Mélanie de leur baiser douloureux qui brûle, il menace de mêler l'amour et la mort, et même de tuer le capitaine consort, qui ne méritait pourtant pas tant de férocité. En fait, Dumas se contente de faire démarche sur démarche au ministère de la guerre, pour que Valdor ne soit surtout pas nommé à Paris, ni même à Courbevoie, qui est trop près de Paris. Il faut le faire nommer major, mon amour, il n'y a que ce moyen-là de nous tirer d'affaire. C'est un sujet de roman, à combien l'avancement revient aux militaires. Lettre d'Alexandre Dumas à Mélanie Valdor. Tu m'as enfin compris, tu sais ce que c'est que l'amour, puisque tu sais ce que c'est que la jalousie. Connais-tu quelque chose de pareil? Et ces imbéciles de faiseurs de religion qui ont inventé un enfer avec des souffrances physiques. Cela fait pitié. Un enfer où je te verrai continuellement dans les bras d'un autre. Malédiction, cette pensée fait naître une crise en moi. Et en vers détestable, du feu des voluptés vainement tu m'enivres. Combien pour un beau jour de triste lendemain, les charmes qu'à mes mains en palpitant tu livres palpiteront sous d'autres mains. Et je ne pourrai pas dans ma fureur jalouse de l'infidélité te réserver le prix. Quelques mots à l'autel t'ont fait son épouse et te sauvent de mon mépris. Car ces mots pour toujours ont vendu tes caresses. L'amour ne les doit plus donner ni recevoir. L'usage des épouses a réglé les tendresses et leurs baisers sont un devoir. Littérature, bien sûr, mais littérature qui va inspirer un drame, Antony, extrêmement important dans l'histoire du théâtre, parce que c'est non plus un drame historique comme Christine et Henri III, mais un drame moderne et l'entrée en scène de la femme adultère qui occupera pendant plus de 100 ans, abusivement, les auteurs dramatiques français. Alexandre Dumas à Mélanie, tu retrouveras bien des choses de notre vie dans Antony, mon ange, mais de ces choses que nous seuls connaissons. Ainsi que nous importe, le public n'y verra rien, nous y verrons, nous, d'éternels souvenirs. Quant à Antony, je crois qu'on le reconnaîtra, car c'est un fou qui me ressemble beaucoup. Le conflit de l'individu et de la société, de la passion et du monde, conflit que le XVIIe siècle avait résolu au profit de la société et que le XVIIIe siècle avait esquivé par le libertinage et la frivolité, passe sur le plan de la violence, la passion moderne est déchaînée. Et pendant tout le XIXe siècle, la passion régnera sur le théâtre dans le tumulte des instincts, des mots, des coups de dague ou de pistolet. Antony, drame bien fait, effraya, comme nous le verrons, les acteurs de la Comédie française qui n'avaient jamais dit telle chose, mais il allait bouleverser les spectateurs. Antony, un révolté, un bâtard, naturellement, comme le Didier de Marion Delorme, n'a pu épouser Adèle, qu'il aimait, parce qu'il n'a ni famille, ni état, ni métier, ni fortune. La jeune fille, Adèle, a été donnée en mariage à un colonel baron d'Hervé, qui représentait le capitaine Valdor, mais le capitaine Valdor à la scène a eu de l'avancement. Un jour, Antony reparaît dans la vie d'Adèle en arrêtant les chevaux emportés de sa voiture. Il est blessé, on le transporte chez elle, le colonel est absent, Adèle le revoit, il s'avoue un mutuel amour, mais Adèle, esclave des devoirs sociaux, entend y résister. Par son amertume, par sa passion, par son ressentiment contre un monde injuste, Antony l'amène, comme dit Dumas, au bord de la chute. Honnête femme, Adèle veut fuir vers son mari, qui est en garnison à Strasbourg. Mais Antony l'attire dans un traquenard, dans une auberge proche de Strasbourg, à Ittenheim, et se ménage une nuit d'amour avec elle. Le monde la condamne, quand elle entre dans un salon, toutes les femmes honnêtes sortent, le colonel accourt en hâte, et il va surprendre les amants coupables dans la chambre où ils se trouvent ensemble. Alors s'échange ce dialogue, Adèle, on monte l'escalier, on sonne. C'est lui, fuis, fuis, Antony. Non, je ne veux pas fuir. Tu disais tout à l'heure que tu ne craignais pas la mort. Adèle, non, tue-moi par pitié. Antony, une mort qui sauverait ta réputation et celle de ta fille. Adèle, je la demanderais à genoux, cette mort. Une voix au dehors, ouvrez, ouvrez, enfoncez cette porte. Antony, et à ton dernier soupir, tu ne haïrais pas l'assassin ? Adèle, je le bénirai. Mais hâte-toi, cette porte. Antony, ne crains rien, la mort sera ici avant lui. Mais songe-y bien, Adèle, la mort. Adèle, je la demande, je la veux, je l'implore. Elle se jette dans ses bras, je viens la chercher. Antony, lui donnant un baiser, eh bien, meurt, et il la poignarde. Adèle tombe dans un fauteuil, ah ! Au même moment, la porte du fond est enfoncée. Le colonel d'Hervé se précipite sur le théâtre. Le colonel d'Hervé, infâme, que vois-je ? Oh, Adèle, morte, Antony. Oui, morte. Elle me résistait, je l'ai assassinée. Il jette son poignard au pied du colonel d'Hervé, rideau. Antony nous fait sourire aujourd'hui parce que les mœurs ont changé. Peu de femmes demanderaient à leur amant de les poignarder pour échapper au déshonneur. Beaucoup penseraient que c'est placer l'honneur trop bas. Toutes les dames en visite ne sortiraient pas d'un salon parce qu'y entrerait une femme soupçonnée d'adultère. Mais on ne peut pas demander à un auteur de peindre les mœurs du siècle suivant. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que la pièce a de grands mérites scéniques. Techniquement, elle est très bien faite. Avec une louable économie de moyens, l'action court à travers les cinq actes vers le dénouement, ce dénouement pour lequel tout le reste fut écrit. La lecture de la pièce, avant la Révolution, avait été glaciale. On ne pouvait guère la refuser, l'auteur ayant eu avec Henri III un succès éclatant. Mais quand on mit Antony en répétition, Mademoiselle Mars, avec une persistance et une habileté dont elle seule était capable, entreprit de ramener le rôle d'Adèle aux proportions d'un rôle de scribe. De son côté, Firmin rabattait toutes les aspérités du sien. Il en résulta, dit Dumas, qu'après 3 mois de répétition, Adèle et Antony étaient devenus de charmants amoureux du gymnase qui auraient parfaitement pu s'appeler M. Arthur et Mlle Céleste. Enfin, l'affiche annonça, après-demain, samedi, première représentation d'Antony. Dumas, entrant au Théâtre Français pour sa dernière répétition, trouve à Mlle Mars tout sucre et tout miel. On vous a prévenu de ce qui arrive, dit-elle. Ah, il arrive donc quelque chose ? On nous éclaire au gaz, mon cher. Ah, tant mieux. Oui, on nous fait un nouveau lustre. Recevez mon compliment. Oui, mais ce n'est pas cela. Alors, qu'est-ce que c'est, mademoiselle ? Eh bien, j'ai fait 1200 francs de dépenses de robes pour votre pièce. Bravo ! J'ai 4 toilettes différentes. Mais vous serez superbe ! Oui, mais alors, vous comprenez ? Non, je ne comprends pas. Eh bien, je veux qu'on les voie, mes robes. Mais c'est trop juste. Eh bien, puisque nous aurons un lustre neuf... Oui, mais dans combien de temps, mademoiselle ? Oh, dans 3 mois. Eh bien, alors ? Eh bien, nous jouerons Anthony pour inaugurer le lustre neuf. Ah ah ! Oui, oui. C'est-à-dire dans 3 mois. Dans 3 mois. Alors, au mois de mai. Au mois de mai, oui, c'est un très bon mois. Vous voulez dire un très beau mois, mademoiselle ? Oui, très bon aussi. Ah, vous n'avez donc pas de congé au mois de mai cette année ? Non, non, mon congé est le 1er juin. C'est-à-dire que si nous passons le 20 mai, j'aurai 3 représentations. Mademoiselle Mars compta sur ses doigts 4. Le mois de mai a 31 jours. Eh bien, c'est joli, 4 représentations. Je vous prendrai à mon retour. Ah, vraiment ? Parole d'honneur. Merci, mademoiselle, c'est bien gracieux de votre part. Je lui tournai le dos, continue Dumas, et me trouvai face à face avec Firmin. « Tu as entendu ?» lui dis-je. « Parfaitement. Quand je te disais qu'elle ne le jouerait pas ton rôle. Mais enfin, pourquoi ne le jouera-t-elle pas ? Parce que c'est un rôle de Madame d'Orval. » Eh bien, il y avait longtemps que Dumas le pensait. Petite, brune, frêle, front bouclé, yeux noyés, bouche frémissante, visage poétique... D'Orval était plus qu'une actrice, c'était une arme. Sa taille semblait un souple roseau, toujours courbé par quelque souffle mystérieux. Fille naturelle de 2 pauvres acteurs nomades, élevée parmi des passions violentes et sordides, D'Orval déchaînée pouvait prendre un ton de harangère. À la ville, elle avait fait beaucoup de choses, et quoique mariée et remariée, accueillie de nombreux amants, dont le jeune Alexandre Dumas. En scène, cette femme sublime, devenait vibrante d'inspiration, débordante de vie, le diable au corps. Oui, Marie d'Orval jouerait Adèle bien mieux que Mademoiselle Mars. Et son partenaire habituel, Pierre Bocage, jouerait Anthony bien mieux que Firmin. Bocage, Rouennais, ancien quart d'heure, venu au théâtre par vocation, avait de l'âme et de la chaleur. Sa haute taille, son visage régulier, ses sourcils ombrageux faisaient de lui le beau ténébreux dont rêvaient les lecteurs de Byron. Lyrique, sévère, passionné, sombre, amoureux, féroce, sublime, il était Anthony par droit de naissance. Seule objection, Marie d'Orval et Bocage étaient tous deux pensionnaires de Harel. Mais en ce temps-là, le directeur de l'Odéon était le même que celui de la Porte Saint-Martin, c'était un cumul providentiel. Dumas était en termes amicaux avec Harel, et plus qu'intime avec D'Orval, il reprit son manuscrit à la Comédie-Française et alla le porter chez Marie d'Orval. Ah, celle-là ne ressemblait pas à Mademoiselle Mars. Rien d'une célimène aristocratique. Très peuple, délicieuse de naturel, elle accueillit Dumas avec cet accent traînard qui avait dans sa bouche tant de charme. Ah, tu es gentil, mon bon chien. Il y a 6 mois qu'on ne t'a vu. Mais qu'est-ce que tu veux, ma chère ? J'ai fait depuis ce temps-là un enfant et une révolution. C'est comme ça que tu m'embrasses ? Je ne peux pas t'embrasser, je deviens sage. Et qui a fait 7 révolutions ? Alfred de Vigny, j'en suis folle. L'amour est la seule chose qu'il fasse naturellement, mais ça fait passer le reste. Il me traite comme une duchesse, il m'appelle son ange, il dit que j'ai l'imagination du corps. Eh bien, bravo, moi je t'apporte un rôle, je vais te le lire. Tu vas me le lire pour moi toute seule ? Tu me prends donc pour une grande artiste ? Le soir même, il lut Anthony à D'Orval. Elle pleura, elle admira. Elle remercia. « Ah, tu peux être tranquille. C'est pas difficile à jouer tes pièces. Seulement ça vous broie le cœur. Ah, grand chien, va. Où as-tu appris les femmes, toi ? Tu les sais bien un peu par cœur. » Elle lui demanda de remanier le 5e acte. Elle le trouvait trop mou. Mademoiselle Mars l'avait jugé trop dur. Ah, les comédiennes. Dumas resta toute la nuit chez Marie d'Orval. Au matin, l'acte était refait. À 9h, l'actrice battait joyeusement des mains et s'écriait « Mais comme je vais dire tout ça, comme je dirais, mais je suis perdue, moi. Attendons, et puis, ma fille, il faut que j'embrasse ma fille. Et puis, tue-moi, et puis tout, enfin. Alors, tu es contente ? Je crois bien que je suis contente. Maintenant, il faut t'envoyer chercher Bocage pour entendre tout cela. » Bocage se montra aussi enthousiaste que D'Orval, et le 3 mai 1831, Anthony fut prêt à passer à la Porte Saint-Martin. Le succès fut prodigieux. L'effet que dut produire cette pièce entraînante sur le public incandescent et la jeunesse volcanique de l'époque, on se le figure aisément. Dumas lui-même fut assailli par la foule, tiré à droite, tiré à gauche, embrassé. Des fanatiques admirateurs coupèrent toutes les basques de son habit, qui par dandysme était vert, afin d'emporter des souvenirs de cette soirée mémorable. Le public des premières, ce public élégant, d'ordinaire réservé, avait complètement perdu la tête. À 28 ans, Dumas devenait l'auteur dramatique le plus fêté de son temps. On le mettait en parallèle avec Victor Hugo. On disait les deux rivaux, si bien que leur belle amitié en fut parfois gâtée par les soins de mauvais amis, mais jamais pour bien longtemps, car tous deux avaient de la générosité. Ils n'avaient pas tout à fait rompu avec Mélanie Valdor, mais les géraniums à leur fenêtre étaient brisés, et il avait dû lui avouer qu'une autre actrice, cette belle Krelzamer, Madame Mélanie Serre, était enceinte de ses œuvres. L'enfant qui vint au monde le 5 mars 1831 fut appelé Marie-Alexandrine. Madame Serre, le nom de théâtre de belle Krelzamer, actrice médiocre mais femme intelligente, avait à sa charge déjà un fils de 6 ans, né d'une liaison antérieure et fugitive. Elle exigea et obtint que Dumas reconnût leur fille. 48 heures après l'accouchement, c'était chose faite. Après quoi, pour être équitable, il reconnut aussi son fils Alexandre, le fils de Catherine Labbé, ce qu'il avait oublié de faire depuis 7 ans. Dumas était négligent, mais bon. Et d'ailleurs, l'auteur d'Antony, défenseur des enfants naturels, pouvait difficilement refuser de donner son nom au sien. Mélanie savait qu'il avait installé Belle Krelzamer, 7 rue de l'université, à 4 pas du numéro 25 où elle demeurait elle-même. Elle adressait à Dumas des lettres dignes d'Adèle d'Hervé, essayait de lui faire jurer qu'il romprait avec la comédienne. Son médecin lui servait de confident et de messager. Le lundi 22 novembre 1830, elle écrivit à ce médecin, Dr Valran, une lettre testamentaire. Elle allait mourir, elle voulait obtenir de Dumas ses lettres et son portrait. La montre de Dumas, qu'elle lui achèterait, disait-elle, et son cachet. Tout cela devait être enterré avec elle sur un marbre blanc, sous un marbre blanc sur lequel on graverait « Sarah dite o di morte, elle t'appartiendra à toi ou à la mort ». Et 4 dates, celle de sa rencontre avec Dumas, celle de sa chute, celle de leur séparation et celle de sa mort. À ce testament romantique et à cette rupture qui s'annonçait meurtrière, Mélanie Valdor survécut 41 ans. Il est dangereux pour un artiste, quand il n'est pas très consciencieux, d'avoir de grands besoins d'argent, car il ne résiste pas alors aux offres de besogne bien payées. À Dumas, maintenant célèbre pour sa maîtrise de constructeur dramatique, on venait soumettre des pièces à demi-faites pour lesquelles on lui demandait sa collaboration. Ce fut ainsi que Bocage lui apporta un jour un plan d'Anicé Bourgeois, un faiseur de mélodrames assez adroit, plan duquel Dumas tira une pièce Thérésa, qu'il n'aima guère, sauf un rôle de jeune fille dont il disait modestement « C'est une fleur du même jardin que la Miranda de la Tempête et la Clairchen d'Egmont ». Pour ce rôle, Bocage proposa une débutante qu'il disait pleine de talent. « Et comment s'appelle-t-elle » demanda Dumas. « Vous ne la connaissez pas, elle s'appelle Ida. Elle joue à Montmartre, à Belleville. Mais elle est bien douée, elle est ravissante et le rôle lui ira comme un gant. » Mademoiselle Ida était en effet jolie et distinguée. De son vrai nom, elle s'appelait Marguerite Ferrand, au théâtre Ida Ferry. Elle traînait à sa suite en tout lieu une mère veuve. Bien que son rôle fût court, elle eut dans Thérésa un succès très vif et elle se jeta tout émue dans les bras de l'auteur en lui disant qu'elle avait assuré son avenir. Qu'il avait assuré son avenir. Elle ne savait pas elle-même à quel point elle disait vrai. Dumas l'emmena souper, la ramena chez lui et elle y resta 14 ans. Dumas ne se lassait pas d'admirer la jeunesse, la beauté et la poésie de sa nouvelle conquête. Il louait jusqu'à sa chasteté. « Ida, c'est une statue de cristal, disait-il. Vous croyez que les lys étaient blancs, que la neige était blanche, que l'albâtre était blanc. Que non. Il n'y a de blanc dans le monde que Mademoiselle Ida Ferry. Cela faisait beaucoup sourire, car beaucoup savaient que le lys était rouge. Mais Don Juan a toujours été un naïf. Belle Calzamer était alors en tournée. Quand elle revint, il y eut de beaux orages. Ida était jalouse, elle faisait 3 scènes par jour, elle interceptait les lettres, elle questionnait les domestiques, mais elle avait un adorable visage, des sourcils peints avec art, une peau de satin blanc à peine rosée, des lèvres de corail, des cheveux blonds frisés de 1000 boucles à la Mancini. Ce fut elle qui triompha. Bien que les 2 autres femmes eussent donné à Dumas des enfants, elle conserva le rôle de sultane favorite et arriva même à installer la veuve Ferrand, sa mère, dans l'appartement du faux ménage. À la vérité, il n'y avait rien de plus facile que de vivre avec Dumas. Il ne demandait rien que le respect de son travail. Pour le reste, sa bonté allait à la faiblesse. Depuis qu'il avait de l'argent, il nourrissait ses maîtresses, ses anciennes maîtresses, leurs familles, ses enfants, ses amis, ses collaborateurs, ses flatteurs. Cela faisait un beau régiment d'ingrats. Quand on ne savait pas où dîner, on disait « allons chez Dumas ». On le trouvait au travail. Il y avait sur la cheminée les derniers louis d'or qu'il avait gagnés. « Dis donc, Dumas, j'ai besoin d'argent, je prends ça. »« Bon, très bien. Je vous le rendrai dans 8 jours, comme vous voudrez. » Quand Ida faisait une scène, il ne répondait pas. Il prenait son encrier, sa plume, son papier, et il allait travailler dans une autre pièce. Elle n'était pas commode à vivre, son premier mouvement était toujours mauvais. Mais étant intelligente, elle rectifiait par intuition des conséquences. Elle avait inventé le maquillage et faisait chaque jour son visage. Et une fois peinte, elle se gardait de pleurer, ce qui assurait tout de même un certain répit. Elle tyrannisait Dumas, mais elle jouait ses pièces avec talent, tenait bien sa maison et savait recevoir ses amis. Il patienta, non sans s'accorder, de fréquentes et peu discrètes revanches. Il y avait 10 ans à peine que ce jeune homme avait quitté sa petite ville de province avec 50 francs dans sa poche pour s'élancer à la conquête de Paris. 10 ans. Et voilà que lui, et lui seul, pouvait entraîner tout ce qu'il y avait à Paris de plus brillant, de plus spirituel, de plus beau dans cette farandole géante. Disraeli, un jour qu'on lui demandait ce qu'il souhaitait que fût la vie, avait répondu gravement « Une magnifique procession de l'adolescence au tombeau ». Dumas, lui, aurait souhaité qu'elle fût une farandole amicale et somptueuse, se déroulant sur un rythme de galop. En cette année 1833, déjà tout un cortège bondissait derrière lui au rythme de ses violons. Nous le verrons plus tard rallier à sa suite des lecteurs du monde entier, suspendus à ses lèvres par des récits aussi vifs que cette musique, et les mener, déguisés tantôt en mousquetaires et tantôt en cardinaux, dans un galop séculaire qui n'est pas prêt de s'arrêter.
C'était les grandes conférences Anthony d'Alexandre Dumas, conférence de nous dans le cadre de l'Université des Annales par André Mauroy, est diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 3 octobre 1955.